France Culture.
Alors que partout en Europe, aux États-Unis, des forces politiques cherchent à relativiser, à banaliser ou à requalifier l'héritage du fascisme et du nazisme, la fin du Troisième Reich revient au centre des débats, longtemps racontée comme un effondrement soudain. En premier plan, avec le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker, Berlin en ruine, la capitulation du 8 mai, cette fin qui nous est très familière masque cependant ce qui se joue fondamentalement dans les dernières semaines du Troisième Reich. La fin n'est pas un instant, mais une séquence longue, instable et profondément politique, au cours de laquelle le régime nazi ne disparaît pas d'un coup. Il se crispe, il se recompose et il continue d'agir. Alors que révèlent ces derniers jours sur la fabrication des récits et des héritages politiques après 1945 ? Un invité ce soir pour nous éclairer, Emmanuel Droit. Bonsoir.
Bonsoir Quentin Laffey.
Vous êtes directeur de Sciences Po Strasbourg et professeur d'histoire contemporaine à l'université de Strasbourg. Vous signez cet ouvrage passionnant intitulé « Les dernières heures du Troisième Reich ». C'est au PUF, c'est les presses universitaires de France. Merci d'être avec nous ce soir dans Questions du soir.
He was a communist and he considered himself as a socialist.
Il était communiste et se considérait comme socialiste. Et le plus grand succès après cette terrible période de notre histoire a été de qualifier Adolf Hitler de politicien de droite et de conservateur alors qu'il était exactement le contraire. Il n'était pas conservateur, il n'était pas un libéral, c'était un communiste socialiste. Point final, sans commentaire.
No more comment on that.
Propos tenu par Alice Weidel, la patronne du parti d'extrême droite allemand AfD. Emmanuel Droit, lorsqu'on entend des propos comme ceci, des propos par ailleurs qui ne sont pas isolés, hein, qui font partie d'un grand mouvement de banalisation, de minoration aussi de ce qu'a été la mémoire nazie, on se dit que cette mémoire est une question du présent.
Entièrement d'accord avec vous. On a l'impression, en écoutant les propos parfois lunaires d'Alice Weidel, qui se trouve être la petite fille d'un juge nazi. Donc, on est dans une tradition de la robe brune, même si elle est docteur en économie. On se rend compte en fait comment les idées d'extrême droite constituent à la fois le présent et l'avenir de l'Allemagne. Et on se dit aussi, en écoutant Alice Weidel, que l'Allemagne n'en a pas fini avec le combat contre l'extrême droite, puisqu'on assiste aujourd'hui non seulement en effet à une montée électorale quasi irrésistible de l'AfD, mais à aussi une bataille culturelle autour du recodage, voire même du révisionnisme, donc d'une lecture révisionniste de l'histoire du national-socialisme. Donc on n'en a pas fini avec cette histoire.
Cette lecture révisionniste, comment se dessine-t-elle ? Comment se compose-t-elle ? On a le sentiment qu'il n'y a pas une négation frontale de ce qu'a été fondamentalement le nazisme. Non, c'est plutôt des petits pas de côté, du relativisme, un ensemble aussi de remises en cause légères, presque pointillistes.
Oui, il y a la volonté de diluer tout d'abord le national-socialisme dans l'histoire de longue durée de l'Allemagne, en considérant que finalement ce n'est qu'une toute petite partie d'une histoire que l'AfD présente comme glorieuse. Il faudra être très vigilant le soir des élections régionales du 6 septembre dans le Land de Saxe-Anhalt, qui pourrait être le premier laboratoire d'un gouvernement AfD si les sondages maintiennent ce niveau très élevé de vote pour l'AfD, puisqu'ils annoncent déjà dans leur programme électoral une recomposition des programmes d'histoire avec la volonté de mettre en avant l'histoire nationale du 19e siècle, donc une histoire qui est présentée comme une histoire glorieuse puisqu'elle va permettre à la fois le sursaut nationaliste contre la France napoléonienne et puis la construction de l'État-nation, donc de l'Allemagne impériale.
Alors plongeons, Emmanuel Droit, dans votre ouvrage « Les dernières heures du Troisième Reich ». Pourquoi s'intéresser à ce segment de l'histoire nazie ? On a le sentiment, après tout, que cette histoire, on la connaît. On a le récit d'Adolf Hitler qui se suicide dans son bunker. On a les images d'un Berlin en ruine et la capitulation du 8 mai. Tout ça, on connaît pas ?
Oui, si, on connaît. On connaît bien cette séquence. On associe d'ailleurs la fin du Troisième Reich dans une vision très hitlérocentrée au suicide d'Hitler dans son bunker. et puis éventuellement à la capitulation et surtout à cette image iconique des soldats de l'armée rouge en train de hisser le drapeau soviétique sur le toit du Reichstag. Mais en fait, la fin d'un régime, et surtout d'un régime totalitaire comme le Troisième Reich, n'est pas seulement liée à cette personne charismatique qui a été Adolf Hitler. C'est une fin en trompe-l'œil et une fin qui marque alors à la fois la fin de quelque chose, c'est-à-dire qu'Hitler a voulu mettre en scène sa fin. Il s'est fait le chorégraphe de l'effondrement du Troisième Reich. Et puis, cette fin, elle ouvre en fait une nouvelle séquence, puisque le légataire testamentaire, le grand amiral de Nice, va lui choisir une autre fin pour le régime.
Et par ailleurs, cette fin dans l'imaginaire collectif est marquée du sceau du ridicule. Il faut nous expliquer pourquoi et surtout pourquoi c'est un problème.
Oui, on a une construction à la fois médiatique dès 1945 par la presse anglo-américaine qui considère que cette fin incarnée par le gouvernement de Nice n'est qu'une opérette, une mascarade, puisqu'en fait c'est une sorte de petit appendice ridicule. Il faut se rendre compte que ce gouvernement va gouverner sur 14 km² dans une petite ville à la frontière germano-danoise, Flensbourg. Mais en fait, moi je suis parti du principe qu'il faut prendre au sérieux les acteurs et ces acteurs, en fait, ont estimé qu'ils avaient une marge de manœuvre et surtout une légitimité pour pouvoir, un, négocier une capitulation partielle avec les alliés anglo-américains, croire à un éventuel renversement des alliances, parce que eux avaient déjà anticipé que si la guerre, la grande guerre raciale était terminée, parce qu'ils avaient finalement réalisé au moins cette mission qui s'était donnée, c'est-à-dire liquider, exterminer les Juifs d'Europe. Il y avait une autre guerre qui se profilait, c'était la guerre contre le bolchevisme.
Alors commençons par le début de la fin de cette histoire. Avant même le suicide d'Adolf Hitler, commence à se cristalliser dans l'imaginaire des dirigeants nazis qu'il n'existe pas d'autre alternative plutôt que la paix, plutôt que la négociation, il n'existe pas d'autre alternative que la destruction même des hommes, des dirigeants et du nazisme. Expliquez-nous.
Ouais, alors vous avez deux scénarios en fait qui cohabitent entre en gros 1943 et 1945. 1943, l'état-major allemand et Hitler lui-même savent que la guerre est perdue et que l'initiative sur le front de l'Est, elle est définitivement perdue. Alors vous avez un petit cercle de décideurs politiques et diplomatiques qui pensent qu'il faut chercher une paix de compromis, et puis Hitler, lui, est convaincu que le scénario le plus pertinent, c'est d'orchestrer la fin, la chute héroïque de l'Allemagne en programmant son autodestruction. C'est le fameux décret Néron qui est proclamé par Hitler le 19 mars 1945, qui sera jamais mis en application par les services d'Albert Speer.
Qui ordonne la destruction des infrastructures allemandes.
Oui, qui ordonne la destruction des infrastructures, puisque dans une logique darwinienne, biologique et raciale, le peuple allemand n'a pas été à la hauteur, la guerre est perdue, donc il faut que le peuple allemand s'auto-anéantisse. Et Hitler cherche en quelque sorte à clore cette séquence, cette fin de l'histoire eschatologique qu'il avait déjà annoncée dès septembre 1939 et que d'autres leaders nazis avaient rappelé en octobre 1942, comme Göring, qui avait annoncé dans un célèbre discours que si la guerre était perdue, que le peuple allemand devait se préparer à l'anéantissement.
Est-ce la véritable raison pour laquelle Adolf Hitler en vient à se suicider lui-même? Ce n'est pas par lâcheté, ce n'est pas par peur, non, c'est dans sa conception des choses et du monde un geste héroïque.
Alors, il veut que ça soit considéré comme un geste héroïque, c'est-à-dire qu'il veut construire une postérité finalement légitime. La raison véritable, c'est qu'en fait, il veut évidemment éviter d'être prisonnier et d'être jugé en fait, et notamment, alors il a cette fameuse formule où il parle de cette peur d'être exposé en fait telle une bête de foire à l'issue de la guerre. Donc c'est surtout par lâcheté qu'il se suicide.
Ce qui frappe par ailleurs Emmanuel Droit lorsqu'on vous lit, c'est de voir à quel point Adolf Hitler a préparé ce suicide avec précision, avec minutie. Il n'a rien laissé au hasard, même si la suite de l'histoire organisera différemment les choses. On y reviendra.
Oui, il a rien laissé à l'avoir. Alors sa fin, il l'a déjà planifié, en tout cas imaginé par des testaments qui dès 1934 règlent l'ordre de succession de ce régime. Göring d'abord, puis la disgrâce de Göring va faire que l'amiral de Nice va être le dernier choix, en fait, à la fin du mois d'avril 1945.
Justement, cet homme au cœur des testaments d'Adolf Hitler, Karl de Nice, il s'exprimait le 1er mai 1945.
Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht, Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Hommes et femmes allemands, soldats de l'armée allemande. Notre Führer Adolf Hitler est tombé. Le peuple allemand s'incline dans la plus grande tristesse et le plus grand respect. Très tôt, il avait reconnu le terrible danger du bolchevisme et consacré son existence à cette lutte. Au terme de son combat et de son parcours droit et imperturbable, il est mort en héros dans la capitale de l'Empire allemand. Sa vie n'a été qu'un seul et même service pour l'Allemagne. Son engagement dans la lutte contre le raz-de-marée bolchevique s'adressait en outre à l'Europe et à l'ensemble du monde culturel.
Der Führer hat mich zu seinem Nachfolger bestimmt. Im Bewusstsein der Verantwortung.
Le Führer m'a désigné pour lui succéder. Conscient de cette responsabilité, j'assume la direction du peuple allemand en cette heure décisive. Ma première mission consiste à sauver le peuple allemand de l'anéantissement par l'ennemi bolchevique qui s'avance. C'est uniquement pour atteindre cet objectif que les combats militaires se poursuivent.
Vous nous le présentez, Emmanuel Droit, ce Karl Dönitz, qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi est-il choisi par Adolf Hitler pour lui succéder?
Alors Karl Dönitz, c'est le dernier choix d'Hitler, un dernier choix que Albert Speer lui a murmuré à l'oreille dans les dernières semaines de la vie du Führer au mois d'avril. C'est un officier en fait de la marine de guerre qui s'est illustré notamment par sa capacité à commander les fameux U-boats et donc à mener cette guerre sous-marine à outrance qui a beaucoup gêné la logistique et l'approvisionnement des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faut jamais sous-estimer cette dimension logistique de la Seconde Guerre mondiale. Et Karl Dönitz, en fait, se présente comme un officier zélé, discipliné, qui est là pour appliquer en fait le testament d'Hitler tel qu'il l'a reçu. Alors en fait, il n'a jamais reçu ce testament en main propre. Il a simplement reçu à différentes heures de la journée à partir du 30 avril des télégrammes de Berlin de Goebbels qui l'informe en fait de la succession. Et vous voyez dès le départ que ce gouvernement fictif repose sur une fiction, c'est-à-dire sur une mort héroïque d'Adolf Hitler, puisque le discours en fait repose sur un mensonge.
Ce Karl Dönitz, il sera jugé à Nuremberg, il sera emprisonné jusqu'au mi-temps des années 50 et il vivra une vie paisible hein, jusqu'au mi-temps, cette fois-ci, des années 80. Je reviens tout de même sur une idée importante. Ce qui compte chez Karl Dönitz, c'est que ce n'est pas un idéologue, c'est d'abord et avant tout un militaire.
Alors, il se présente comme un militaire et laisse de côté la dimension idéologique, c'est vrai, et il construira en fait une image, notamment à travers ses mémoires ou ses récits autobiographiques, une image qui visera à faire de lui un officier apolitique. Mais derrière l'officier apolitique, vous avez un nazi zélé qui participe en fait à ce régime criminel et jusque dans les dernières semaines lorsqu'il sera le chef de ce gouvernement à Flensburg.
Comment remplir cette fonction de chef de gouvernement après Adolf Hitler? A-t-il souffert d'abord et avant toute chose d'une crédibilité, d'un problème de légitimité même?
Alors la première chose qu'il va faire dans les premiers jours qui suivent la mort du Führer, c'est d'établir sa légitimité, puisque vous imaginez un tout petit peu le champ de rivalité. Alors on est dans un contexte où l'Allemagne est déjà très largement occupée, mais il va chercher évidemment à éliminer politiquement ses rivaux. Alors Göring, lui, réfugié en Allemagne du Sud, va être prisonnier par les Américains. Himmler réussit à le rejoindre à Flensburg. Himmler a cette ambition d'être un numéro 1 bis, et il trouve que Flensburg n'est pas à la hauteur de la continuité du régime nazi, puisque lui rêve de transférer la capitale à Prague, voilà, dans la tradition impériale. Et donc Dönitz va éliminer Himmler, il va éliminer tous les rivaux potentiels pour apparaître comme le seul légataire légitime.
Une notion importante dans votre ouvrage, Emmanuel Droit, Les dernières heures du Troisième Reich, c'est la notion de fidélité. La fidélité qui devient un enjeu et un objet politique à part entière dans cette séquence-là.
Oui, la fidélité, alors elle s'est construite autour d'Adolf Hitler jusqu'à son suicide, hein, puisque le Führerprinzip repose sur l'obéissance aveugle au Führer et l'exécution des ordres du Führer. Et donc, Dönitz, il va chercher à reprendre en fait ce principe de fidélité en établissant là aussi une fiction de légitimité avec un peuple allemand désorienté, atomisé, armée qui ne souhaite qu'une chose, la fin des combats, et qui, il l'apprend lors du 1er mai, vous imaginez la déception finalement de ceux qui ont pu entendre ce discours à la radio, parce qu'ils pensaient que les combats allaient se terminer, et en fait, les combats vont encore durer pendant une semaine. Alors, la légitimité, elle est toute relative, puisque, je vous l'ai dit, elle est réduite à ce territoire de 14 km carrés, et finalement, Dönitz va quand même garder cette fiction. Vous l'avez rappelé, il va être jugé à Nuremberg, emprisonné, il va toujours se considérer comme le seul représentant légitime de l'État allemand, puisque la division artificielle des deux Allemagnes en 49, il va la considérer comme illégitime.
Je reste un instant dans cette période. Lorsque tout s'effondre, comment l'État fait-il pour organiser, pour maintenir son autorité, sa crédibilité et même son rapport à la légalité ?
Alors, il le fait par le biais d'un émetteur radio, tout d'abord, puisque à Flensburg, dans cette ville allemande, ils ont encore un émetteur radio, et ils essaient de garder un lien ténu avec la population allemande, qui évidemment a du mal, ne serait-ce qu'en raison des conditions matérielles, à vraiment écouter cette radio. Ils le font aussi avec toute une série de symboles et de rituels de travail. Le gouvernement se réunit sous l'autorité d'un premier ministre et commence à produire des mémorandums censés préparer l'avenir, c'est-à-dire que leur objectif va être d'apparaître comme un gouvernement légitime en charge d'assurer l'administration d'un État centralisé suprarégional. Et cette légitimité, ils la construisent encore parce que il leur reste quelques milliers de soldats censés défendre cette enclave de Flensburg.
Point fondamental, quels objectifs politiques fixe Karl Dönitz, et notamment dans le rapport à la guerre, cherche-t-il à achever cette guerre, à la terminer? Cherche-t-il à négocier? Comment se situe-t-il dans ce conflit aussi qui traverse les élites nazies?
Alors, il va commencer par désobéir à Hitler, puisque Hitler lui avait enjoint de continuer le combat coûte que coûte et donc de continuer le processus d'autodestruction. Ce qu'il va faire, c'est chercher à gagner du temps en essayant tout d'abord de rapatrier le maximum de soldats et de civils qui fuient l'avancée de l'armée rouge. Et puis, il va tenter un pari.
Sauver donc un maximum d'Allemands.
Sauver un maximum d'Allemands. C'est comme ça qu'il présente son action politique. Et il dit même sauver de la destruction. C'est-à-dire qu'il est en train de les protéger d'une logique génocidaire. En tout cas, c'est comme ça qu'il présente les choses. Et puis, l'autre objectif, tout en gagnant du temps, c'est tenter un pari. C'est cette paix de compromis à l'Ouest et imaginer, avec des références historiques, celles du règne de Frédéric II de Prusse, ce fameux renversement des alliances qui permettrait, en fait, à l'Allemagne d'être ne plus l'ennemi numéro un, mais le poste avancé de la lutte contre les soviétiques, et cette fois aux côtés des anglo-américains.
L'idée également que vous remettez en cause, c'est que le 8 mai 45, la capitulation, au fond, n'est pas une rupture fondamentale. Les hommes continuent d'être présents au sein du pouvoir allemand. Ils demeurent, la table rase absolue n'existe pas.
Alors le 8 mai, c'est un acte militaire, c'est-à-dire que la Wehrmacht capitule et on commence dès le 9 mai au matin à construire cette légende d'une Wehrmacht héroïque aux mains propres qui a combattu vaillamment pour défendre l'honneur de l'Allemagne.
Qui construit cette légende ?
Ça, c'est le régime de Dönitz via la radio de Flensburg dès 1945, dès le 9 mai, et ses officiers en fait qui parfois sont encore à Flensburg vont par la suite, dès les années 50, à travers leurs mémoires, je pense à Erich von Manstein ou Heinz Guderian, construire cette légende qui va persister en Allemagne jusqu'à la fin des années 90.
Cela signifie, Emmanuel Droit, que ce régime-là accepte la défaite militaire. En revanche, ils mettent à distance, ils renient même la défaite morale, la défaite politique.
Oui, ils mettent à distance leur responsabilité morale dans ce régime criminel et génocidaire, et ils pensent être en capacité de négocier avec les alliés occidentaux un statut un petit peu particulier, c'est-à-dire une sorte de gestion administrative des défis alimentaires, des défis d'infrastructure, de relance de la production industrielle au nom de la légitimité incarnée par Dönitz. ils sont persuadés qu'il existe une petite marge de manœuvre pour pouvoir faire subsister cet état allemand, et au nom aussi de la du principe d'une non répétition de ce qui s'est passé après 1918, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus que seuls eux sont en capacité d'éviter la polarisation et la division des Allemands, et donc un risque de guerre civile.
Comment est-ce que tout s'arrête pour eux? Comment, même très concrètement, très prosaïquement, vient-on chercher Karl Dönitz pour le faire juger?
Alors ça s'arrête le 23 mai au matin. Les troupes britanniques qui encerclent l'enclave de Flensbourg ont décidé que ce jour-là, le 23 mai, il fallait mettre un terme à cette fiction de gouvernement légitime. L'opinion internationale et la presse se répandent en fait dans les journaux pour mettre la pression. Et puis Eisenhower a bien rappelé à Churchill qu'il n'était pas question de rompre l'alliance avec les soviétiques. La priorité numéro une, c'est la fin du régime nazi. Et cette fin du régime nazi, elle doit être actée par une opération mise en scène de l'arrestation de l'amiral Dönitz, de ses troupes, de ce gouvernement, pour bien montrer, et le 23 mai 1945 est une date un peu invisibilisée de l'histoire allemande, mais le 23 mai 1945, pour les alliés occidentaux et les soviétiques qui étaient présents également à Flensburg, donc ce jour-là, c'est la fin du Troisième Reich.
Ce que vous expliquez par ailleurs, Emmanuel Droit, c'est que le choc de la défaite a souvent favorisé le silence, l'évitement, le refoulement. C'est peut-être ce qui caractérise la mémoire allemande de cette période. Vous écrivez, je vous cite, « Dans les premières années de l'après-guerre, la société allemande est d'abord occupée à survivre, à se reconstruire et à gérer l'expérience de la défaite bien davantage qu'à affronter la question de la culpabilité ».
Oui, les alliés ont essayé par leur ambitieuse par leur ambitieux projet de dénazification, ils ont essayé de confronter individuellement les Allemands à leurs responsabilités. Cette dénazification, on le sait par toute une série de travaux, elle a produit des résultats évidemment très mitigés, et les Allemands, après avoir réussi à survivre matériellement, se sont lancés, j'allais dire corps perdu dans la reconstruction, et dans les années 50 avec le retour de la croissance économique. Des deux côtés de l'Allemagne, on a construit un méta-récit pour effacer évidemment les responsabilités individuelles, alors par la mythologie de l'antifascisme en RDA, et en Allemagne de l'Ouest par la conversion en fait à la démocratie, et surtout par l'américanisation de la société ouest-allemande.
Comment les Allemands d'aujourd'hui, les familles allemandes d'aujourd'hui pensent-elles cette période, ces derniers instants du Troisième Reich?
Alors, généralement, ils l'associent à la mort d'Hitler dans ce climat apocalyptique de décadence tel que...
Pas si différent des Français, alors,
de
ce point de
vue-là. Pas si différent, parce qu'un film comme La Chute de Bernd Eichinger en 2004, enfin, d'Olivier Hirschberger en 2004, a cristallisé, en fait, cette culture mémorielle autour d'une fin hitlérocentrée du nazisme, mais une fin en trompe-l'œil. C'est aussi ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre.
Je vous cite une nouvelle fois, Emmanuel Droit, vous écrivez « Penser la fin du Troisième Reich, c'est accepter l'idée qu'il n'y a pas de clôture simple de l'histoire, mais des héristages instables, conflictuels et durablement ouverts. Ça signifie donc que cette mémoire, elle est toujours vivante, toujours travaillée et toujours même politiquement abrasive. »
Oui, alors non seulement l'histoire est ouverte, elle n'est pas linéaire, mais la mémoire, qui est la présence du passé dans le présent, elle est source de controverses, de conflits. C'est une sorte de compétition où vous avez différents acteurs qui essaient d'occuper le champ politico-médiatique et de recoder ou de raconter finalement une autre histoire avec des différences de culture mémorielle, évidemment, selon les milieux, selon les époques, et un rapport à la mémoire qui continue d'imprégner aujourd'hui l'Allemagne contemporaine.
Est-ce que l'idée fondamentale aussi, c'est de battre en brèche l'idée même d'un effondrement simple et brutal, de raconter une autre histoire, peut-être, sans doute, même beaucoup bien plus proche de la réalité? Cette fin du Troisième Reich, c'est aussi une séquence faite de petits coups bas, de calculs politiques qui continue malgré l'apocalypse en train de se dessiner du point de vue du monde nazi, bien sûr.
Oui, c'est ça. Alors, l'historien n'est pas un juge, il n'est pas là pour dire si si c'est une ridicule ou une mascarade, il est là pour prendre les acteurs au sérieux. Et ces acteurs ont pensé à un moment qu'ils étaient en mesure de tourner le dos, en tout cas à une certaine manière de pratiquer le national-socialisme, tout en préservant un certain nombre d'héritages. Je pense au concept de la communauté du peuple ou à d'autres choses qui font que, au-delà de la fin dont on a l'impression qu'elle est brutale, bah, au-delà de cet effondrement, il y a des formes de continuité, dans cet effet de seuil, de recodage en fait d'un certain nombre d'idées qui vont perdurer, qui vont être repris par toute une série de réseaux et de nébuleuses d'extrême droite, et qui font qu'aujourd'hui encore, l'Allemagne n'en a pas fini avec les idées d'extrême droite.
Merci beaucoup Emmanuel Droit de ces explications, de ces analyses. Je rappelle que vous êtes directeur de Sciences Po Strasbourg, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, et vous signez au PUF les dernières heures du Troisième Reich. Merci d'être venu au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont fait cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation, Fan Montet et Marie-Claire Roumabadi à la technique.